Bienvenue dans le Cogitpop de juin, celui au zénith de la pensée. Cogitpop, ce petit labo d'éducation populaire en train de se faire. 7e émission d'une série qui propose de muscler notre autodéfense intellectuelle grâce à l'arpentage. Décliné sous un format audio, un format radio réduit, donc 26 minutes. On fait alors ici l'expérience d'un micro-arpentage. On ne prend pas un livre, mais une citation, simplement, pour la lire à plusieurs. Et bah, aujourd'hui, on est trois autour de cette table. Seb, salut Seb.
Salut.
Marion, bonjour Marion.
Bonjour.
Qui a osé franchir la porte, elle ne sait pas à quoi elle s'expose. Et ben Seb, encore une fois, c'est toi qui viens avec une petite citation. Mais avant, peut-être nous redire ce qu'est l'arpentage.
L'arpentage, donc, c'est une pratique d'éducation populaire et politique où l'idée, à la base, c'était non pas de lire une citation, mais de lire un livre et de le faire à plusieurs. Parce que les livres, ça peut coûter cher, encore pour certaines bourses. Et puis c'est long, ça demande du temps. Et donc, allier nos forces en se partageant le travail, que chacune lise une partie du livre et après, on en discute. Et ce qu'on va récupérer dans cette technique de l'arpentage, c'est surtout la trame. Pour pouvoir partager ses impressions, puisque comme c'est une technique d'éducation populaire, l'idée aussi c'est de pouvoir rendre accessible une expérience de la lecture, même à des personnes qui pourraient avoir des doutes, pas se sentir légitimes ou dire « oh là là, mais moi je vais pas savoir parler de ce que j'ai lu aux autres ». Et donc on va suivre trois temps ensemble. D'abord, qu'est-ce qu'on a ressenti comme émotion, qu'est-ce que ça nous a fait en termes d'affect d'entendre cette phrase, puisque là ce sera une citation, puis dans un deuxième temps, à quoi ça nous fait penser. On essaiera de suivre chacun le fil de nos propres pensées en écho à cette citation. Donc voilà, l'idée c'est pas de faire une explication de texte ou de trouver la bonne interprétation. Et dans un troisième temps, comme on est dans l'outillage, pour muscler notre autodéfense intellectuelle, comme tu as dit tout à l'heure, être sensible à est-ce que ça peut changer quelque chose dans ma pratique, que ce soit la vie personnelle, la vie militante, la vie associative, professionnelle, etc. Voilà, donc on va suivre ces trois temps-là à partir d'une citation que j'ai amenée.
Oh, c'est le moment, on t'écoute.
Alors j'ai pris une citation assez classique, assez connue, et qui parle beaucoup au milieu de l'éducation populaire. Elle n'a pas de source précise, elle est attribuée à Nelson Mandela, mais certains disent qu'en fait elle est déjà reprise de Gandhi, et ça dit la chose suivante: « Tout ce que vous faites pour moi, sans moi, vous le faites contre moi. » Elle est très courte, donc je pense qu'on peut se permettre de la répéter une deuxième fois. Tout ce que vous faites pour moi, virgule, sans moi, virgule, vous le faites contre moi.
Peut-être que Sylvain aussi, tu pourrais jouer. Non, Sylvain, il est là, il est derrière la vitre. Mais je le vois, je vois que ça, ouais, ça fait son effet, cette phrase. Ah ouais, intéressant.
Et bah du coup, je vous laisse, ou peut-être Marion, la primeur de qu'est-ce que ça lui fait en termes d'émotion, ouais. Juste...
juste la première fois.
Phrase,
ouais, cette phrase, ça te fait quoi?
Je sais pas vraiment.
Ben voilà, ça c'est déjà quelque chose.
Non mais ça je sais pas trop, ça me fait penser peut-être un peu à la notion d'égoïsme. Est-ce que on veut que les gens fassent des choses pour nous sans qu'on le sache ou sans qu'on soit impliqué dans l'action?
Ouais. Ouais. Ce que ça me fait, c'est que ça, je suis très heureuse d'entendre cette phrase, parce que ça, en quelques mots, bien fait, ça fait écho à ce que je ressens vraiment très fort, c'est cette tendance de beaucoup à faire le bien pour autrui. Je pense qu'il y a une notion aussi de faire le bien, et ça me... Après, je ne sais pas si on est déjà dans l'affect ou la pensée, peu importe, mais ça vibre de plein de liberté pour moi, d'autodétermination. Je détermine moi-même ce que j'ai envie de faire, quoi. même si on a envie de faire quelque chose de très bien pour moi, non merci. Et toi, Seb ?
Eh ben, moi, je me souviens assez exactement de l'impression qu'elle m'a faite. Et ce qui est chouette, c'est que à chaque fois que je la reconvoque, que j'y repense, je vois que c'est un peu la même émotion. C'est vraiment une forme de grande satisfaction, parce que j'ai l'impression que il y a quelque chose un peu comme un diamant, c'est-à-dire qu'elle est très courte et il y a énormément de choses à déployer. Et c'est un peu, je pense que c'est pas pour rien qu'on la croise souvent dans les milieux des duc-pop, que ce soit en formation ou pour se poser des questions sur comment on crée un dispositif, parce que elle a quelque chose de comme un principe, en fait. Si on arrive à garder ça, c'est fort, et aussi elle a quelque chose d'hyper exigeant, et ça c'est aussi satisfaisant, c'est-à-dire qu'on sait qu'on va avoir quelque chose qui est un peu comme un garde-fou ou une petite potion magique, parce qu'on peut vite s'inscrire en faux par rapport à cette citation. Donc voilà, satisfaction d'avoir trouvé quelque chose de précieux dont j'imagine que je ne vais pas trouver tout de suite tout ce qu'elle peut receler. Et ça, c'est effectivement un peu excitant. Un peu comme quand on ouvre une malle et on se dit, waouh, il y a ça, mais il y a peut-être encore plein d'autres choses. Et voilà, donc. Et là, je vois bien que quand je me suis dit, tiens, je pourrais utiliser celle-là pour le prochain arpentage, j'étais tout content de ce qu'on allait pouvoir dire, dire dessus, quoi.
Alors, plein de choses à déployer, mais je sais pas, on va s'y pencher en termes. Voilà, ce qu'elle nous fait, à quoi elle nous fait penser. Je sais pas, Marion, tu veux t'y essayer ?
Je te laisse la parole en premier.
Merci. tout ce que vous faites pour moi, sans moi, vous le faites contre moi. Il y a cette idée quand même aussi de violence. Alors j'y reviens, moi j'aime bien mélanger. Hein. On a parlé des affects, mais c'est pas grave, j'y reviens. Quelque chose d'assez violent, d'affirmer, en fait, de contrer ça avec le contre. Tout ce que tu fais sans moi, tu le fais contre moi. Je trouve que c'est aussi quelque chose de très violent. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Pour moi, tout ce que vous faites pour moi, y a cette notion, j'y reviens, de comment dire, d'autodétermination. Je sais pas, alors peut-être je vais tourner en boucle autour de cette idée que, dans un premier temps, ce que je retire de cette citation, c'est personne ne doit penser à ma place, personne ne doit faire quelque chose si je ne l'ai pas souhaité, si je n'ai pas voulu. Je sais pas, toi.
Quand tu dis autodétermination, il y a un autre mot qui est très proche et qu'on croise beaucoup dans les luttes, c'est auto-émancipation. Et je pense, par exemple, au slogan féministe célèbre, ne nous libérez pas, on s'en charge. Et effectivement, moi, ce à quoi ça me fait beaucoup réfléchir, c'est la question de l'intention. Le pour, en fait, faire pour, c'est... Est-ce que l'intention, souvent bonne, hein, c'est au nom du bien, peut suffire ? Et ça renvoie, en fait, à toutes les postures verticales, descendantes. Je pense que le contexte de Mandela, c'est évidemment la colonisation. Mais c'est la même chose en éducation, c'est-à-dire toutes les postures paternalistes, je sais mieux que toi, à ta place. Et donc, le pour, c'est le délire de certitude. J'ai des bonnes intentions, forcément ça va être bien pour toi. Et le sang, je pense que c'est vraiment le préjugé ou le mépris que l'autre n'est pas capable de. Il n'est pas assez mûr pour savoir, ou il est trop bête, ou il est trop arriéré ou sauvage dans des délires racistes et coloniaux. Et c'est vrai que le mixte produit les pires choses. Donc là, pour le coup, le contre, je ne le vois pas forcément comme une violence, mais plutôt comme une résistance ferme, farouche. De dire ça, on va résister absolument au récit du père, du colonisateur, de l'homme, du dominant, que mais c'est pour ton bien, mais je comprends pas pourquoi tu t'énerves, machin, truc, etc. Non, en fait, c'est contre moi que tu fais ça. C'est hostile, c'est violent, en fait. C'est plutôt nommer la violence de l'autre d'être capable de dire c'est contre moi que tu fais ça et je le vois pas moi comme une violence de la personne qu'oserait affirmer affirmer ça quoi.
Mais t'as raison, quand je dis violence c'est que c'est en miroir, c'est quelque chose effectivement ça met en lumière la violence de ce qui est fait et je pense que ça nécessite pour certains et je pense que si je dis ça c'est parce que je fais partie de beaucoup qui ont pour qui on a fait à la place d'eux et où je ne voyais pas le problème, peut-être parce que je suis une femme et que j'ai eu l'habitude de me dire que bah voilà un mec va mieux faire ou quelqu'un d'autorité va mieux faire que moi et donc pour moi c'est violent de m'opposer contre, c'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose à faire, ça va pas de soi encore. C'est peut-être pour ça que pour moi c'est violent.
Ça remet aussi en question la notion d'intention de peut-être de faire du mal ou de faire violence. Le contre.
Ouais. Ouais, explique.
Je sais pas, par exemple, dans la phrase tout ce que vous faites pour moi, sans moi, vous le faites contre moi. Mmh. Est-ce que ce contre est intentionnel ?
Ah oui. Ouais. Bien souvent, non. Bien souvent, non. C'est là où c'est pervers. Effectivement, il y a une perversité. Je pense que ça met... je commence à prendre la dimension de cette phrase. Ça met vraiment en lumière, effectivement, la perversité d'énormément de postures, en fait. Où il y a cette ambiguïté, on le fait, l'intention est bonne, et le résultat est en fait destructeur. Bien souvent.
Oui, je pense que c'est. On pourrait dire que la phrase de Mandela, elle est justement là pour révéler, ou presque, on pourrait dire pour rééduquer ou éduquer celui ou celle qui se complaît dans ses bonnes intentions, en lui disant ce qui se passe, c'est les effets que tu produis, sont pas du tout ceux que tu penses produire. Donc effectivement, je pense que c'est surtout une phrase qui est utile dans les situations où en face, on a une personne qui est bien intentionnée. Une personne qui est mal intentionnée et qui dirait ouvertement « t'es bête, laisse-moi faire, je vais le faire à ta place », on va pas trop se mentir sur le fait qu'elle est hostile. Par contre, là où c'est beaucoup plus dur, c'est des positions entre guillemets perverses ou hyper bien intentionnées ou des personnes qui croient sincèrement bien faire. Où là, c'est important de dévoiler le mécanisme en disant « là, tu ne me rends pas service, en fait ». Effectivement, je pense que c'est une phrase qui est particulièrement utile quand il y a des bonnes intentions en face, plus que quand il y a une agression ou une véritable volonté assumée de nuire. Et je pense que c'était pour contrer, dans le cadre de la colonisation, tout le discours de... Mais on vous amène des bonnes choses, on vous rend service, voilà la civilisation, c'est-à-dire qu'il soit sincère ou pas, en tout cas il y avait tout un discours de la bonne intention civilisatrice des Européens, et je pense que c'était pour déconstruire ça, quoi.
Et si on déplie un petit peu la citation, t'as dit tout à l'heure, effectivement, c'est... À l'origine, c'est dans ce contexte de colonisation et de décolonisation. Tu as parlé aussi du contexte éducatif. Et toi, Seb, tu travailles pas mal justement là-dessus, sur ces questions, sur le rapport entre les adultes et les enfants, et sur l'éducation. Comment, enfin, est-ce que cette citation, s'agissant des enfants, est aussi pertinente, et jusqu'à quand ? C'est-à-dire, quand est-ce que elle est plus pertinente ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour les enfants, à la place, sans lui ? De quand c'est contre lui ?
Alors ça, c'est un... La question de l'âge, elle est insidieuse, parce que on va pas pouvoir trancher empiriquement si à partir jusqu'à un an ou trois ans c'est légitime ou pas, mais c'est plus intéressant de se dire que c'est un discours en tout cas qu'on peut tenir légalement vis-à-vis de personnes jusqu'à 18 ans, parce que ça c'est la minorité légale, et que sans doute bien avant 18 ans, un être humain, parce qu'il s'agit de ça, c'est un être humain, est tout à fait capable de communiquer, de relationner, de discuter des choses qui le ou la concernent directement. Donc priver un individu de la capacité à décider de choses qui le concernent, c'est voilà la minorité légalement, c'est ça que ça signifie. Mmh. C'est on va faire les choses sans toi, parce que de toute façon on peut pas les faire avec toi, puisque la loi dit ta voix ne vaut rien, ta signature n'a pas de valeur juridique, etc. Donc la minorité qui concerne aujourd'hui l'âge, c'est d'abord à la base, ne l'oublions pas, un concept politique. Mmh. Les femmes ont été des mineurs, les noirs ont été des mineurs dans la colonisation africaine, les fous, les folles, comme on disait, etc. Donc, minoriser, c'est d'abord un geste de dominance, c'est pas une réalité objective. Enfin, y a pas de mineur autrement que dans le regard de quelqu'un qui dit « toi, on va faire sans toi parce que t'es pas capable ».
Ben merci, ouais, c'était vraiment là où je voulais en venir. Tu as dit minoriser, effectivement. Nous-mêmes, on a été minorisés. Enfin, nous, les femmes, ont été minorisées. Toutes les minorités l'ont été. C'est un principe politique. Tu voulais réagir, Marion ?
Oui, par rapport à ça, par rapport à aussi pour contrer justement ça, il y a l'importance de la communication et le fait que les personnes se sentent légitimes aussi à dire ce qu'elles veulent et à exprimer leurs besoins. Quoi. Mmh. Pour éviter justement qu'il y ait cette domination. Mmh.
Mais ouais. Mais ça, il me semble effectivement que c'est intéressant, la légitimité. J'en parlais tout à l'heure quand je parlais de violence. Je disais d'une certaine manière que je me sentais pas légitime ou que je me suis pas senti légitime pendant un bon moment, et donc forcément ça favorise les prises de position, les prises de parole d'autres à ma place et pour moi, donc contre moi. Mais c'est toi par exemple qui es jeune, Marion, est-ce que tu rencontres souvent ce type de problème, ou est-ce que tu en as pris conscience ou pas, ou est-ce que ton voilà
je sais pas
et par exemple sur un on va passer peut-être à la pratique, ce que ça peut faire dans notre pratique, et j'ai une question bien précise parce que finalement on entretient une relation bien précise toutes les deux. Et oui, parce que Marion, tu es en stage chez nous.
Oui.
À Fréquence 7. Le stage, on a déjà eu l'occasion d'en parler. Souvent, on dit ta stagiaire, la petite stagiaire. C'est aussi une manière vraiment de minoriser la personne que tu es et ce que tu apportes et ce que tu fais au sein de la radio. Tu es une collègue qui œuvre pour la radio. Est-ce que toi, dans ce cadre-là, si je te pose la question, est-ce que tu as déjà senti, attention, j'ai l'impression d'être Mireille Dumas, que d'autres, en l'occurrence moi, faisaient pour toi, sans toi?
À ma place?
Ouais.
Ici, non, je ne l'ai pas ressenti.
C'était la bonne réponse.
Ah oui, c'était une question piège, en fait.
Non, mais il me vient que, voilà, dans la pratique, en tout cas pour moi, il faut que je sois... J'essaie d'être vigilante, mais quelquefois, ça nous échappe, en fait. Quelquefois, on reproduit, effectivement, des schémas qu'on a déjà soit subi, soit qu'on a déjà fait.
Du coup, non. En tout cas, pas ici.
Pas ici, dans ce cadre-là.
Non.
Toi, qu'est-ce que... Alors, pas ici, Seb, mais qu'est-ce que cette citation t'a amené ou continue de t'amener dans ta pratique, dans ton expérience, peut-être à évoluer?
Sur la question de la légitimité, pour rebondir sur ce qu'a dit Marion, pour moi, cette citation, c'est justement... une boussole, une recette pour ne pas produire d'illégitimité, parce qu'en fait la légitimité, le sentiment de pas être légitime, il est justement produit par ça. C'est-à-dire que à force de se retrouver dans des situations où on a fait sans nous, forcément on n'a pas d'expérience, on n'a pas de pratique, et donc ça construit le sentiment d'illégitimité. Et en plus, on pourrait dire que ça en produit les effets réels. Donc il n'y a rien de pire que quelqu'un qui nous empêche de faire. Si jamais on conteste, on résiste, la personne, ça peut être un parent, un prof, un dominant, dire bah, « vas-y, fais-le ». Et là, on n'y arrive pas parce qu'on n'a jamais trop pu s'entraîner. Et là, le verdict abominable tombe, c'est « tu vois, je te l'avais bien dit, t'es pas capable ». Et donc finalement, ça, on produit de l'incompétence et de l'illégitimité, et après on laisse une tentative piégeuse à l'autre pour triompher en disant de toute façon je t'avais dit que t'étais nul. Et une fois qu'on l'a intériorisé, ça donne des discours de manque de confiance en soi, syndrome de l'imposteur, de toute façon je suis nul, j'y arriverai jamais. Et le jour où on tente, comme on est complètement habité par ça, on échoue. Et là, on vient se conforter, donc bah oui, je savais bien que j'étais nul, etc. Donc, c'est vraiment un cercle vicieux. Et pour moi, cette citation, c'est une manière de vigilant à surtout pas amorcer ce cercle et à toujours rendre possible l'expérience pour l'autre, mais aussi être vigilant d'entourer ça de toutes les conséquences que ça peut avoir. C'est-à-dire de pas se dire, ah, j'ai laissé l'autre faire, il a raté, j'aurais pas dû le laisser faire. Mais non, c'est normal. Quand on essaye la première fois, on tâtonne, on essaye, etc. Si on faisait à la place de quelqu'un la marche bipédique, on resterait toujours à quatre pattes après un an. Mmh. Un bébé, pour passer de quatre pattes à la marche à deux pattes, il a fallu qu'il monte, qu'il tombe, qu'il essaye, qu'il tombe, et personne ne va le faire pour lui, et ça n'aurait pas de sens qu'il marche sans lui-même. Mmh. Mais en fait, ce qui est vrai avec le corps, c'est vrai aussi avec tout, et notamment avec l'esprit et les idées. Et on a vite tendance à l'oublier, ça.
Et oui, parce que c'est beaucoup plus facile de faire... Enfin, on ne peut pas être dans le corps de l'autre. Par contre, on peut amener les idées et faire à la place de l'autre. Marion, est-ce que cette citation, donc on la répète, « Tout ce que vous faites pour moi, sans moi, vous le faites contre moi », est-ce que ça... va résonner, est-ce que ça résonne, est-ce que tu t'imagines un petit peu dans ta pratique, dans ton expérience, que ça peut faire évoluer ou pas?
Mmh. Oui, ben c'est toujours réfléchir lorsqu'on veut faire une action, essayer de supprimer ce « sans » pour le transformer par un « avec », avec l'autre, avec les autres.
Mmh. Ouais, avec. Ouais, et toujours considérer l'autre comme son égal, même s'il ne l'est pas dans l'expérience, par exemple, mais en tout cas dans les capacités, et l'accompagner. Super. Ben, je ne sais pas si vous voulez ajouter.
Oui, tu vois, en t'entendant, Marion, je me dis, ça peut être bien de... En tout cas... J'ai beaucoup parlé du dominant, etc., dans ce qu'il pouvait avoir d'empêchant, etc., mais je trouve que c'est important de ne pas perdre de vue que si on adopte cette tactique-là, c'est souvent en fait parce qu'on est faible et qu'on a peur. Et on pourrait prendre un autre exemple, par exemple dans le couple, mais ça vaut peut-être dans la famille, dans les amis. Souvent, c'est parce qu'on on anticipe consciemment ou inconsciemment qu'on ne va pas savoir gérer émotionnellement la réaction de l'autre, qu'on cherche à faire sans l'autre. Typiquement mentir. Ouais. Pourquoi est-ce qu'on ment à l'autre, finalement? On peut se retrouver, je dis pas que c'est toujours le cas, mais à mentir parce qu'en fait, on se dit, mais si l'autre sait la vérité, ça va le mettre dans un état émotionnel de tristesse, de désespoir, et moi-même, en fait, ça me met en panique de voir quelqu'un que j'aime dans cet état-là. Donc, dans notre tête, on va se raconter, je vais le faire pour lui, genre... pour lui éviter d'être triste ou parce que c'est trop dur à gérer. Et donc, je vais faire sans lui. Puisque mentir, c'est un mensonge par omission, c'est-à-dire juste ne pas lui dire. Et bien, en fait, qui je cherche à protéger là? Souvent, c'est moi-même plus que l'autre. Mmh. Et donc, voilà, c'est important, je pense aussi, dans cette citation, d'être lucide dans le fait que quand on transgresse ce conseil-là, c'est pas uniquement qu'on est un méchant dominant ou plus fort, etc., et qu'on opprime des plus faibles. Ça dit quelque chose aussi de nos propres peurs, de nos propres faiblesses, de nos propres incapacités à communiquer ou à être sincère avec l'autre. Donc, le mensonge, ou même le mensonge par omission, tombe un peu sous les fourches codines de cette citation, qui est aussi très exigeante d'un point de vue éthique, pas que politique, mais même dans les relations quotidiennes avec les gens.
Mmh. pense aussi à une autre chose, c'est que faire avec l'autre, souvent, ça nécessite du temps. Et c'est beaucoup plus long de donner, parce que effectivement, l'autre, peut-être au début, tâtonne, doit réessayer, etc. Donc ça prend souvent beaucoup plus de temps. Et j'ai l'impression que, en tout cas, le moment qu'on vit depuis quelques dizaines, quelques centaines d'années maintenant, qui est une compression du temps, où tout doit aller vite, une idée, un objectif, entre deux, rien ne doit se passer. Et donc on doit aller de l'idée à l'objectif sans laisser place au temps qui est justement l'expérience. Et il me semble que c'est d'autant plus difficile à mettre en place dans nos temps-là que ça en prend du temps. Voilà, je voulais pas forcément avoir le dernier mot, mais c'est l'heure des 26 minutes passées en votre compagnie, les Cogit Poppers d'aujourd'hui, Seb et Marion, merci beaucoup. Et on répète, allez, la citation pour vous, que vous l'ayez en tête, que vous la trituriez, que vous en parliez, que vous l'expérimentiez avec vos proches, tout ce que vous faites pour moi, sans moi, vous le faites contre moi. C'est le Cogit Pop que vous pouvez que vous retrouvez tous les 2e et 4e dimanches de chaque mois à 11h ou sur le site de fréquence7.net. Merci.
Merci à toi.